Sofia Benyahia. J'ai l'impression d'être à la distribution des prix, là. Hein. Oui, Sofia Benyahia qui va venir nous lire, bien sûr, quelque chose de son cru. Alors, elle est québécoise et pas québécoise. Qu'est-ce qu'elle est exactement? Elle va venir, Sofia Benyahia.
Moi, je veux que ce soit un peu plus haut, s'il vous plaît.
Je vais rester là. Je
On a
vais rester
chacun
là.
nos mesures.
Oh ben, pour vous, que ne ferais-je pas?
Merci.
Je ne sais pas comment ça marche.
Comme ça.
Comme ça? Ça vous va?
Oui, ça devrait aller. Merci.
Parfait.
Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Alors pour commencer, moi je voudrais faire un gros bec à mes deux trésors, Delizar et Oumaima. Je voudrais faire un gros bec à leur papa, Shihab Hasnaoui. C'est grâce à lui que j'ai encore le privilège d'une année entière d'écriture. Alors, Shihab Hasnaoui, merci. Je voudrais dire aussi merci à Isabelle Boulanger et à l'équipe de la librairie pour cet événement, puis pour l'esprit de la librairie. J'en ai parlé un petit peu avec Isabelle tout à l'heure. Donc, voilà pour les remerciements nécessaires. Puis pour l'occasion, j'ai choisi de vous lire un extrait de mon roman à paraître en août prochain chez Les Méacs, donc qui a publié aussi mon recueil de nouvelles Les couteaux à pain trouent les seins comme rien. Ce roman dont je vais vous lire un court extrait a pour titre Conte pour mon père. Avant de quitter le Québec où il était venu en vacances, un père, là je vous raconte en fait un petit peu, avant de quitter le Québec où il était venu en vacances, un père laisse un petit mot à sa fille, le genre de petit mot qu'un père peut laisser à sa grande fille. Conte pour mon père est un peu la réponse de la grande fille. Ma fille adorée, tu sais comme tu m'es chère. Tu es loin d'être crédule et tu as bien la tête sur les épaules. Reste simple, humble dans ton comportement avec les gens. Sois toi-même, sans exubérance ni excentricité tape à l'œil. Les gens ne voient que cela de nos jours, l'étalage. Surveille tes dépenses. Réfléchis aux choses utiles pour toi, les enfants ou la maison. Dans la cuisine, il y a beaucoup de pertes d'aliments. Ne consomme que le minimum et surtout enseigne-le aux enfants. Dans les petites crises de circonstances, ne dévoile pas tes larmes. Les enfants restent très peinés. Lis plutôt le verset du trône et dis souvent et plusieurs fois Alhamdoulilah. Rends grâce à Dieu, cela aide et soulage rapidement. Je l'ai essayé à maintes reprises. Tu as un joli appartement, les enfants se portent bien, Alhamdoulilah. Sois patiente avec ton adolescente et le reste viendra tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que tu peux toucher avec une plume ou un 45. Bonne chance, ma fille, je t'aime, ton papa. Je le dis à qui veut bien l'entendre. Il faut un père comme toi pour faire une femme comme moi. Surtout, je suis née. Ton mot est adorable. À mon tour de t'écrire. Fais-moi un livre, tu as dit. Nous roulions vers Fès, tous les deux. Maman ne veut pas que j'écrive sur elle. Quoi écrire? Qu'écrit-on à son père? Pourquoi pas ma vie d'oreille ici au Québec, un peu comme si tu y vivais toi-même? J'aurais préféré inventer une histoire de toute pièce, mais les gens parlent et l'oreille est un sexe. Ces hommes et ces femmes, il y a aussi des enfants et des chiens, sont tous un peu moi. Ce n'est pas de toi que je cacherai ma vulnérabilité. Mes peurs et mes obsessions sont en robe d'été dans ton livre, une façon comme une autre de donner des nouvelles. Les femmes sont incroyables. Les hommes sont des figues. J'adore les figues. Nous en avons volé ensemble, tu t'en souviens peut-être. J'ai aussi volé un baiser à un homme de 2 mètres fou de Suzanne Sontag. Susan Sontag était une intellectuelle américaine, un esprit raffiné. Elle aurait avoué avoir vécu avec hauteur, mais sans aucun vertige. C'est son fils qui a rapporté. Les hommes sont des fils. Les mères sont à la mode. Elles appellent pour se plaindre, font des enfants laids, tombent en Alzheimer et leurs fils se souviennent de leurs genoux. De nombreux pères aussi dans le livre de mon père. Le lieu existe où je stocke ce que j'entends. Une sorte de pension, la pension Hartmann, inconnue de tous. Il n'y a d'histoire singulière que celle de la discrétion. Tu trouveras ton confort à Hartmann, mais pas seulement. Le blanc et le thème de la fête, la crasse aussi. C'est sur le carton d'invitation. Un père peut tout entendre. En vérité, à Hartmann, pas moins qu'ailleurs, on ne parle qu'à soi-même. Qui est très sale, qui est très saoul, qui parle à un bol comme à un chien, qui fusillerait bien les banquiers, qui est venu ici pour être tranquille, qui se souvient de l'odeur d'un moment de douceur, qui croit que le jour viendra d'un temps tranquille, il en vient tous les jours à Hartmann. La pension ne désemplit pas. Des rencontres forcément se font à la pension. Les Hartmann ont peu besoin de présentation, leurs histoires parlent pour eux. De tous les pensionnaires, la grande absente est un peu plus moi. Un poète, ami et iranien, m'appelle ainsi la grande absente. Je tiens de lui un autre délicieux compliment. Tu es une salité, Shahrazade est une salité. Une salité est une femme qui te brûle le trou du cul en parlant. Exquis, non? J'ai déjà trop dit. Les gens comme moi parlent par ennui et se taisent par calcul. Le temps est venu de te laisser à ton livre, ma pension Hartmann, vive et frétillante comme un poisson japonais. Je sais le risque à tout dévoiler. J'entends déjà moins bien d'une oreille. Je serai complètement sourde, je mangerai le monde par les yeux. Tu dirais que je l'ai toujours fait. Que ma vie d'oreille ne t'inquiète en rien, nous allons tous bien. Voilà.
Merci, merci Sofia Ben Yahya, merci pour cette lecture. Pleine d'humour, mais d'un humour... Enfin, il faut tout lire, hein, il faut lire le livre. On rappelle le titre quand même, c'est... Compte pour mon père. Voilà, merci. Alors, on va accueillir tout de suite Hassan Jamali. Hassan Jamali, alors lui, il nous vient de Syrie. Il va se présenter. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Massa al-khair. Pour présenter mon livre, je vais lire juste, je vais lire un passage de cette page ici. Alors, c'est comme ça. Sans verser dans la provocation, l'auteur propose à la lecteur, à la lecture, un ouvrage audacieux qui se lit comme un roman et dans lequel il remet en question l'orthodoxie islamique dans le respect même des principes de base de la religion et du contexte plus large des valeurs universelles. Ce livre est le fruit de toute une vie d'études, de réflexions et d'engagement et d'ouverture au monde. D'ailleurs, je ne veux pas lire à partir du livre parce que je préfère les, disons, ce que j'ai imprimé parce que je crois que les caractères sont un petit peu plus grands. Alors, je vais lire quelques passages qui traitent différents sujets et vous allez remarquer la façon dont ces sujets ont été élaborés. Ouverture. À New York, Mohammad Shami Ali, originaire de l'Indonésie, dirige le Centre culturel islamique, la plus grande mosquée de la ville. Il est considéré par le magazine New York le musulman le plus influent de la ville. Cet imam est connu par son ouverture aux autres et particulièrement aux Juifs, avec qui il a l'intention de construire un restaurant commun offrant des repas gratuits aux sans-abri. Un autre exemple, pour la première fois dans l'histoire de l'islam, une femme, Amina Wadud, américaine d'origine africaine, a bravé les interdits en dirigeant la prière de vendredi à New York. Et ceci malgré les menaces de mort des islamistes conservateurs qui considéraient cet acte comme une pure hérésie. Dans ce livre, la commission Boukhar, pour un raccommodement raisonnable, l'humoriste d'origine sénégalaise, aussi d'origine musulmane, Boukhar Diouf, raconte la mort de Mohamed El Sabh, son professeur de scénographie, un Égyptien qui vivait au Bic, un village québécois près de Rimouski. À son décès en février 1999, les paroissiens ont accueilli dans leur église les membres de la famille du défunt venus d'Égypte. Ces derniers récitaient des prières musulmanes et ce, devant le crucifix. La fille de l'imam. Ma tante, et c'est vrai ça, était la fille de l'imam de la grande mosquée de ma ville natale. Elle a été également une des premières filles dans cette ville à obtenir un diplôme d'institutrice et un poste d'enseignante dans une école primaire. C'était en 1944. Le premier jour où elle s'était rendue à l'école, elle avait traversé la ville à pied, la tête découverte. Le vendredi suivant, après la prière, plusieurs personnes avaient reproché à mon grand-père sa tolérance à l'égard du comportement de sa fille. Ce dernier leur avait répondu par une question. « Ma fille s'était-elle comportée avec pudeur ?» La réponse avait été affirmative. L'imam avait alors expliqué que le hijab était une coutume et non pas une obligation religieuse. La demande de Dieu aux hommes et aux femmes est de se vêtir et de se comporter avec pudeur et modestie. Suite à cet incident, un certain nombre de fidèles avaient boudé la grande mosquée. Peu de temps après, plusieurs femmes avaient décidé de suivre l'exemple de la fille de l'imam. Laïcité. C'est la laïcité qui a permis aux Sénégalais, à majorité musulmane, d'élire démocratiquement Léopold Senghor, un catholique pratiquant, premier président du Sénégal. C'est la laïcité qui a permis à un musulman de race noire, Kit Allison, d'être élu par une majorité non musulmane au Congrès des États-Unis et de Barack Obama, le fils d'un musulman africain, de devenir le candidat démocrate aux élections aux États-Unis et peut-être, ça c'était avant, le prochain président américain. En nous libérant de la tyrannie des institutions religieuses et étatiques qui utilisent la religion pour consolider leur pouvoir, la laïcité nous rapproche de Dieu. Nous sommes tous musulmans. À notre passage, Fatima prie 5 fois par jour. Mohammed fait les siennes le matin et le soir. Ali prie seulement pendant le mois de Ramadan. Hassan assiste régulièrement à la prière du vendredi. Salma prie rarement, mais elle jeûne pendant le mois de Ramadan. Certains croient que l'honnêteté, le travail bien fait, et le bénévolat seront récompensés par Dieu au même titre que la prière ou le pèlerinage. Youssef Seddik, un écrivain tunisien, aime raconter l'histoire de cette dame qui, n'ayant jamais réussi à apprendre les versets, coraniques ça veut dire, s'était résolue à prier en ces termes. « Seigneur, tu connais tes sourates mieux que moi. » Je n'ai pas... Je n'ai pas réussi à me les rémunérer, alors fais que ce soit comme tu as dit. Amen. » un autre passage, Toufik, un musulman croyant, est gay. Dans une émission de radio, ici à Montréal, Toufik, qui est à la fois français d'origine du Maroc, photographe, travailleur social, musulman pratiquant et gay, nous parlait. Toufik est très attaché à l'islam et aux traditions marocaines. Il est aussi à l'aise dans une société occidentale qui lui permet de vivre librement sa religion et son homosexualité. Ces confessions ont bouleversé beaucoup de musulmans qui ne sont pas habitués quand des leurs affichent publiquement son orientation sexuelle. Plusieurs ont applaudi son courage et de même souffle ont découvert la diversité au sein de l'islam. Dernier passage. Femme, et si on vous trompait? Lorsque la femme a interdit les signes religieux dans les écoles, les islamistes se sont mobilisés et des manifestations ont eu lieu en France et ailleurs. Mais lorsque les centaines, même des milliers de femmes ont été assassinées en Afghanistan, en Algérie et en Irak en raison de leur refus de porter le voile, un silence assourdissant s'est installé. Les islamistes n'ont jamais condamné les crimes d'honneur et les mariages forcés. Ils n'ont apporté aucun secours aux jeunes filles des banlieues insultées et agressées parce qu'elles ne portent pas le voile. Les islamistes ne soucient guère des souffrances de la femme musulmane. Rappelez-moi si je me trompe, une seule déclaration, une seule manifestation, ou même un télégramme envoyé par un islamiste aux talibans lorsque ces derniers exécutaient les femmes sur la place publique ou lorsqu'ils interdisaient aux femmes l'accès à l'école, au travail et aux soins médicaux. En 2002, la Nigériane Amina Lawal a été condamnée à la lapidation après avoir donné naissance à un enfant en dehors des liens de mariage. Un jeune avocat canadien, Pierre Brun, membre de l'association Avocats sans frontières, s'est envolé pour la Nigéria afin de participer à sa défense. Malgré l'existence des femmes avocates voilées, aucune de ces femmes ne s'est manifestée pour accompagner Pierre Brun afin de soutenir cette femme musulmane victime de la barbarie au nom de l'islam. Merci.
Vous pouvez applaudir encore si vous voulez. Hein. Merci Hassan Jamali. Je rappelle que Hassan Jamali vient de Syrie. Puis avant, hein, on était au Maroc avec Sofia Ben Yahya. On était en Algérie avec Zahira Oufani. On était au Maroc aussi avec Mohamed Akoujane. Alors maintenant, je ne sais pas du tout où on va aller. Vous allez m'aider. Hein. Elle est née en Ukraine. D'une mère chypriote grecque, d'un père algérien avec Oran, elle est à Montréal. Jamila Benhabib.
Bonjour. Ahlan, zdravstvuyte. Juste quelques mots, en fait, avant de céder la parole à Hafeda Oussedi, qui va vous lire un petit bout de ma vie à contre-coran. Mais je tenais tout simplement à remercier vivement la librairie Olivieri pour ses nombreuses initiatives. Je tenais également à remercier Mourad, à remercier les auteurs et le public, et à dire également mon attachement à cette terre du Maghreb qui regorge de culture. Hafeda, toi.
Bon, on va jouer encore.
Voilà.
Vous allez où? Alors que les islamistes voulaient retourner les Algériennes à la maison, qu'ils promettaient de nous voiler de la tête aux pieds et qu'ils nous interdisaient le sport, Hassiba Boulmarka est devenue championne du monde du 1500 mètres en 1991 à Tokyo et championne olympique l'année suivante à Barcelone. Notre héroïne donné à l'Algérie sa première victoire olympique. Son nom restera gravé à jamais dans le grand livre mondial de l'athlétisme. C'était le 8 août 1992. À la cloche, elle se rapprocha de la tête de la course et s'élança de sa foulée rapide vers une victoire que personne n'était plus à même de lui disputer, pas même la Russe Ludmila Rogacheva, qu'elle laissa loin derrière. Le chrono était bloqué sur le temps. 3 minutes, 55 secondes, 30 dixièmes de seconde. À genoux, sur la piste, flottant dans son short, les caméras s'attardant sur son visage juvénile, enfoui dans le drapeau dont l'avait enveloppé son entraîneur Amar Bourras, Hassiba murmurait « Algérie, Algérie ». Puis s'est relevée pour entamer un tour d'honneur. Cette image de la femme, de femme la tête nue, les cuisses et les jambes nues, les bras nus, c'était la victoire la plus éclatante sur les islamistes et les couardises du régime. Rien n'a pu empêcher cette battante d'aller jusqu'au bout d'elle-même. Elle menait sa vie d'athlète sous les menaces du fils qui lui reprochait de courir en short. Une femme libre les scandalise, disait Kateb Yassine. Je ne peux tout de même pas courir avec un hijab, répliquait-elle. Pierre Folia nous dit, et je me souviens d'être sortie horrifiée d'une entrevue avec l'Algérienne Hassiba Boulmarka, admirable championne olympique au 1500 à Barcelone. Elle m'avait détaillé les menaces qu'elle avait reçues la veille encore des islamistes de son pays qui ne supportaient pas que le monde entier la voie en short et sans voile. Du coup, la pauvre fille s'était affublée d'une assez horrible barboteuse qui lui donnait l'air d'un zouave pontifical. Hassiba, l'amoureuse du sport, courait toujours. Elle ne voulait faire que cela, courir encore et encore. Elle n'aimait que ça, notre déesse, notre bombe nationale. Hassiba était tout cela et plus. Son visage en disait long sur les terribles souffrances de l'Algérie qui se tenait debout face à l'intégrisme. Nous avions mal à notre Algérie. Nous étions perplexes face à l'avenir. Elle est venue nous secouer pour nous offrir son triomphe. À Tokyo, elle dédia sa victoire à toutes les Algériennes, à toutes les femmes arabes. À Barcelone, elle la dédia au président Boudiaf, assassiné le 29 juin 1994, ajoutant « C'est ça l'Algérie qui gagne. S'il fallait mourir aujourd'hui, je le ferais pour mon pays, pour mon drapeau. C'est le sacrifice des martyrs de la Révolution qui a permis cette victoire. » Son visage fit frémir nos cœurs et nous disait que l'espoir était toujours possible, même au fin fond de l'abîme. Notre battante fut accueillie en véritable héroïne nationale. Elle a traversé Alger en voiture, découverte, répondant debout aux acclamations de la foule. Cette victoire, je ne sais comment vous dire, avait pour moi, elle a toujours d'ailleurs, un parfum extraordinaire et unique. Les islamistes ne sont pas arrivés au pouvoir. S'ils y étaient parvenus, ils auraient assassiné non pas des milliers d'Algériens et d'étrangers comme ils l'ont fait, mais des millions, oui des millions. Le fils n'a remporté aucune victoire, sinon celle de la barbarie, une barbarie qui n'épargna personne. Les mots demeurent insuffisants pour décrire l'horreur causée par la mort violente d'un nourrisson de 2 mois, égorgé par des mains d'adultes, ou le supplice et la mise à mort d'handicapés mentaux, incapable de discernement, comme cela a été le cas à Douaouda, à Massouma et dans d'autres lieux. Les islamistes sont loin d'être des enfants de cœur. Ils agissent toujours avec des arrière-pensées. Ils essayent de jouer sur tous les registres pour arriver à leur fin. Ils utilisent aussi bien les voies légales que l'insurrection armée, la terreur et les massacres. Leur déclaration avait le mérite d'être claire, sans équivoque, limpide. Il faut qu'on arrête de dire qu'ils sont des exclus ou des victimes du système. Quand bien même le seraient-ils, Est-ce que cela justifie leur barbarie? Ce sont les fossoyeurs de l'Algérie, les assassins de l'humanité. Ils ne seront jamais les plus forts, jamais les vainqueurs.
Merci beaucoup. Merci pour cette lecture d'un livre très fort, Ma vie à contre-courant. Coran, c'est ça, voilà, de Jamila Ben Habib.